fait pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour, ils sont partis à 11 pendant 45 jours. 11 regards déplacés au bout du monde pour faire le portrait multicolore de l'un des plus beaux endroits de la Terre. L'archipel de Pointe Géologie est situé au bord du continent Antarctique. C'est là que depuis les années 50, les chercheurs travaillent au sein de la base scientifique du Mont d'Urville. C'est l'un des rares lieux de ce continent blanc où la biodiversité peut s'épanouir au printemps. Les oiseaux y trouvent des rochers émergés pour nicher et les manchots empereurs se reproduisent sur la banquise. Il y a aussi la vie sous-marine. Un lieu inaccessible donc que le réalisateur Luc Jacquet et son association Wild Touch ont filmé et photographié pendant des heures et dans les pires conditions climatiques pour nous emmener en voyage. Résultat, une exposition au musée des Confluences à Lyon, un film, L'Empereur, sorti sur les écrans français mi-février, et deux magnifiques livres. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez.
Arctique, Antarctique. Ces mondes lointains sont bien plus proches de nous qu'ils n'y paraissent. Leurs glaces épaisses font en effet la pluie et le beau temps sur l'ensemble de la planète. L'Astrolabe fait route sur l'Antarctique. À son bord, il y a, comme à chaque saison, les scientifiques de l'Institut polaire français. Mais cette année, deux personnages inhabituels les accompagnent. Deux photographes naturalistes, spécialistes du monde sauvage. L'un de la glace, l'autre de l'océan. Ils n'ont qu'une seule obsession, apporter un regard esthétique sur l'Antarctique. Marcher et même plonger sur les traces de l'empereur.
Bonjour Laurent Balista.
Bonjour.
Vous êtes biologiste marin, vous avez réalisé de nombreuses prouesses, on peut dire, dans l'imagerie sous-marine, de la Patagonie à la Polynésie, quelquefois à plus de 200 mètres de profondeur, quelquefois même pendant 24 heures. Vous êtes resté sous l'eau pour percer le mystère de la reproduction du mérou. Bonjour Vincent Minier.
Bonjour.
Alors vous êtes photographe animalier, spécialiste de la nature sauvage dans des conditions extrêmes. Vous aimez bien le froid, puisque vous avez passé plus d'un mois, vous aussi, seul, sur l'île d'Ellesmere. C'était en Arctique pour photographier le loup arctique baptisé, je crois, le fantôme de la toundra, et vous avez réussi à le capter.
Oui, exact. Ouais. J'aime pas avoir froid, mais j'aime les ambiances des pays froids. Absolument.
Vous n'aimez pas avoir froid, mais là, vous avez été gâté parce qu'on se retrouve au musée des Confluences à Lyon, donc dans le sud-est de la France, pour l'exposition Antarctica. Quel résultat donc de votre mission de deux, trois mois en Antarctique pour capter la beauté de cette nature hors norme? Et alors, malgré vos expériences personnelles déjà impressionnantes, vous dites que ça a été la mission finalement la plus éprouvante de votre vie, Laurent Balista.
Oui, c'était les plongées les plus éprouvantes que j'ai eu à faire, enfin, depuis toujours d'ailleurs. La température de l'eau est de moins 1,8. Une température d'eau de moins 1,8, si vous tombez dans l'eau tout nu, vous avez 10 minutes d'espérance de vie. Voilà. C'est pas comme moins 1,8 sur Terre, c'est quand même beaucoup plus agressif. Donc il y a déjà ce problème-là dont il va falloir s'affranchir, avec cette prétention de dire dès le départ que c'est pas parce que l'eau est froide qu'alors on va se donner l'excuse qu'on va plonger 30 minutes par jour. Non, non, l'eau est froide, tant pis, il faut faire le travail de photo, il faut explorer, et donc on va essayer de trouver toutes les solutions. Donc on avait trouvé des solutions, des combinaisons très très épaisses, des chauffages électriques, mais malgré ça, ça a été très éprouvant. Très concrètement, c'est simple, moi j'ai perdu 6 kilos et j'ai mis 7 mois pour récupérer mes orteils, voilà. Et puis je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'épuisement. Mais je pense qu'il y avait aussi une part de difficulté, ou un peu d'ordre presque psychologique, parce que ce n'était pas vraiment mon expédition. J'étais invité par Luc Jacquet. Alors ça, déjà, ça vous met une première pression. Vous avez envie que les images soient à la hauteur de l'invitation qui a été faite. Ensuite, la deuxième pression, c'est que pendant que je suis sous l'eau, je sais qu'il y a Monsieur Munier qui est sur la glace en train de faire des photos. Donc ça met une autre pression encore. Et puis la troisième pression, c'est que je voyais les visages de mes camarades de plongée tous les jours sortir de l'eau dans un état de fatigue, d'épuisement, comme je les avais jamais vu, et pourtant je les connais depuis des années. Et j'aurais pas supporté qu'ils me disent ah ben, tout ça pour ça. Donc ouais, j'avoue que quand je suis arrivé là-bas, j'avais une pression énorme et que je me suis concentré dans le travail comme jamais auparavant, je crois.
Alors, Monsieur Munier, qui fait des photos terrestres, c'est donc vous, Vincent. Alors, vous attendiez qu'une chose, c'était la tempête, et vous l'avez eue. On vous voit dans le documentaire et dans vos photos. À travers vos photos, on voit que vous êtes resté très, très proche de ces manchots empereurs durant des conditions extrêmes, parfois même la nuit. Pourquoi ? Pour s'approcher au plus près de leur vécu.
Oui, alors là, comme le dit Laurent dans le documentaire, là, on n'était pas du tout d'accord parce qu'il lui avait besoin de ciel bleu et beaucoup de lumière. Il travaillait la journée. Et moi, je suis sensible à ces tempêtes et j'aime me confronter à la violence et à la côté hostile de la nature. Et puis aussi de mettre en avant ceux qui vivent avec ce genre de conditions complètement incroyables. Là, sur le continent antarctique, il y a des vents qui viennent de ce continent, les vents katabatiques qui sont d'une violence extrême. Là, on a eu 180 km/h. Mais pendant l'hiver, ça peut atteindre pas loin de 300 km/h. Donc ce sont des tempêtes où on ne peut pas tenir debout, quoi.
Avec des températures extrêmes.
Températures extrêmes. Nous, on a eu des moins 20, moins 25, ce qui était tout à fait raisonnable. Mais malgré tout, on a pu avoir un aperçu de ces violentes tempêtes. Et on a pu voir la manchotière, donc ces manchots qui se rassemblent, qui sont très solidaires pendant ces moments compliqués. Ça, c'était plutôt chouette, je trouve.
C'est-à-dire qu'en fait, ils se regroupent.
Voilà, ils se regroupent, ils font comme on appelle ça une tortue, une espèce de bouclier les uns contre les autres, et ils intervertissent pour que ceux de l'extrémité qui prennent le plus de froid changent et reviennent au centre là où c'est plus chaud. Et on a eu un petit peu un aperçu de ça, et c'était j'ai pris plaisir à me faire à prendre des bonnes bourrasques de cette tempête, à essayer de mettre en avant et de photographier ces manchots au cœur de cette tempête.
Alors vous étiez logé à la station scientifique française du Mont d'Urville, qui est donc en terre Adélie. C'est vrai, il faut y accéder. Hein. On voit au début du documentaire, vous, Laurent hoche la tête. Oui, il faut quoi, à peu près 11 jours de bateau déjà?
Même un petit peu plus,
je crois.
Puis il y a eu aussi les journées d'attente, parce qu'il faut arriver jusqu'en Tasmanie. Bon, de nos jours, avec des avions, c'est réglé en 2 jours. Quoi. Puis après, en Tasmanie, on a attendu plusieurs jours la bonne fenêtre météo. Et après, on est parti dans des conditions de mer dantesques qui s'aggravaient de jour en jour, jusqu'à faire demi-tour, aller se cacher derrière une île, attendre une journée, repartir. Puis après, c'est le labyrinthe dans le pack de glace. Et j'avoue que cette montée en puissance vers toujours pire, moi, ça commençait à me terroriser. On avait l'impression qu'on allait vers l'enfer, quoi. Et se dire, il va falloir plonger là-bas. Et puis, il y a un miracle, c'est quand on arrive proche, tout près de l'Antarctique, alors tout à coup, on rentre dans un anticyclone où, même si, effectivement, parfois, il y a des tempêtes terribles, en statistique, il fait quand même le plus souvent très beau. Et donc, c'est un petit peu rassurant. D'où, peut-être même, dans le film, il y a presque une joie excessive le premier jour où on arrive, parce que pour moi, il y avait un vrai soulagement. Tout à coup, j'avais la sensation à nouveau que c'était jouable, que c'était plongeable, alors que quelques jours avant, j'en menais pas large sur le bateau.
C'est plongeable, mais à quel prix, hein, vous le disiez tout à l'heure, un effort physique énorme, mais pour découvrir sous la glace des choses extraordinaires. Alors il y a un peu deux niveaux, il y a ce qu'on trouve juste sous la banquise, et puis après, beaucoup plus profond, sont deux mondes complètement différents.
Oui, il y a vraiment deux univers. Quand on est juste sous la glace, c'est un univers magique en termes de lumière, c'est vraiment féerique. C'est des lueurs que j'ai jamais eu l'occasion d'observer sous l'eau. Le toit de la banquise fait que la lumière ne rentre plus que par des petites fissures, des trous ici et là. Elle est extrêmement tamisée. Ça la rend profondément belle pour la photographie. Puis avec un choc au niveau des couleurs, on est sur un continent monochrome. Enfin, même si Vincent arrive à y trouver des pleines subtilités, c'est globalement quand même un grand monochrome. Et quand on passe sous l'eau, c'est presque écœurant de couleurs. Sous la glace, surtout la vieille glace qui n'a pas débâclé, qui n'a pas fondu depuis plusieurs années, les micro-organismes se sont accumulés, et alors on a des glaces oranges, jaunes, vertes. Donc ça, c'est le premier univers, le premier choc visuel. Il y a déjà quelques créatures, quelques méduses qui flottent en pleine eau, qui sont complètement insolites. Et c'est presque un signal pour vous prévenir de ce qui vous attend plus bas, quoi. Parce qu'effectivement, après, dès qu'on atteint les grandes profondeurs, c'est la première fois qu'il y avait une autorisation officielle pour faire des plongées profondes engagées, c'est-à-dire avec de la saturation, avec de la décompression obligatoire. Et ça nous a permis d'aller découvrir des jardins de coraux très colorés, où il y a une diversité, une richesse qui n'a rien à envier aux récifs coralliens, par exemple. Par contre, évidemment, elle est à 70 mètres de profondeur et même bien au-delà, hein, jusqu'à 200, 300 mètres, c'est très très riche. C'est de plus en plus riche au fur et à mesure qu'on s'enfonce sous l'eau. Sorti de leur contexte, vraiment, je suis sûr que je pourrais faire le test. Les gens penseraient que ces images viennent des Caraïbes, c'est presque sûr. Et pourtant non, c'est bien dans une eau qui fait juste 30 degrés de moins.
Et alors, comme c'était la première fois, j'imagine que vos images vont susciter de l'ambition scientifique.
Je l'ignore. En tout cas, toutes les images, c'était le deal de l'association Wild Touch, hein, l'association de Luc Jacquet, c'était que toutes les images que nous ferions seraient libres de droit pour les chercheurs qui s'intéressent à tout ça. Donc on leur a laissé, je crois, 700 images qui montrent un peu toute cette diversité, et peut-être qu'effectivement ça donnera des idées pour des programmes futurs, hein. En tout cas, j'en serais vraiment heureux.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Et vous avez réussi un défi que vous étiez lancé, c'est prendre en photo le dessous d'un iceberg. Ça, c'était quand même compliqué à faire.
Ben ouais, parce que ça parle à l'imaginaire collectif, la face cachée de l'iceberg, par définition, qu'on ne peut pas voir. Et on a eu la chance de trouver des conditions parfaites, c'est-à-dire d'abord un iceberg pas trop gigantesque, un iceberg qui ferait 100 mètres de haut, 500 mètres sous l'eau, plusieurs kilomètres de long. Bon, là, j'aurais rien pu faire. Mais là, on a trouvé un petit iceberg qui avait le double avantage à la fois de ne pas être échoué sur le fond, donc il flottait, et il flottait seulement à quelques mètres au-dessus du fond, et en plus il était coincé dans la banquise, donc il était parfaitement stable, et il était en place depuis plusieurs années, donc il avait pris une allure très ovoïde, avec des faciès d'érosion qui étaient très esthétiques, et qui étaient une taille raisonnable. Il devait faire à peu près 100 mètres de long, 40 mètres de haut. Et on a pu, avec toute une technique de photo qui est expliquée dans le film, capter son image en entier. Et puis on voit sur cette image, pour donner une échelle, les plongeurs qui deviennent des tout petits vermicelles de rien du tout. C'est vraiment un travail d'équipe, où là c'est la solidarité qui va faire le succès. Et en particulier une photo comme ça, où il a fallu installer plein de choses. Voilà, donc c'est aussi ça qui est satisfaisant, c'est que c'est... je sais que les copains sont contents d'avoir participé à ce truc-là, et ça fait plaisir. Ouais.
Et puis vous aviez 90 kilos sur le dos. Vous, Vincent Minier, vous aviez un traîneau, on voit dans le documentaire, hein, vous tirez votre traîneau sur lequel doit y avoir, j'imagine, votre matériel photo. Vous avez marché des kilomètres et des kilomètres sur cette banquise.
Oui, moi c'était notre quotidien, c'était ça, c'était partir de la base et puis de se balader sur la banquise. On était un peu déçus, un peu surpris par une débâcle qui est arrivée un peu tôt. Donc on a eu cette belle banquise sur plusieurs dizaines de kilomètres, une semaine ou deux maximum, et ensuite une violente tempête et aussi les courants probablement marins, enfin tout une forte houle a fait que la banquise s'est très rapidement délitée. Ce qui était bien pour les plongeurs, ils avaient un bord banquise plus proche. Pour moi, c'était un peu moins évident, mais c'est vrai qu'on a pas mal marché, tout en sachant que là-bas, on est contraint à un protocole assez strict au niveau de la base. Hein. Il ne faut pas s'éloigner à plus de 5 ou 10 km, ou alors il faut être à plusieurs personnes. Donc, je rayonnais tout autour, mais c'est vrai qu'on a beaucoup marché. Jérôme Bouvier, le réalisateur du documentaire, Luc Jacquet également, on était tous les trois avec nos poulkas, chacun de notre côté. À tirer notre matériel, notre petit thermos, et on partait plusieurs heures aller chercher les manchots.
Et avec un suspense qui est qu'en fait, les manchots qui naissent dans ces milieux extrêmes doivent, au bout de 5 mois, se retrouver seuls face à eux-mêmes, avec la nécessité, à leur tour, de plonger. Mmh. Et vous avez suivi cette mue avec, on sent dans le documentaire, presque une empathie très très forte.
Absolument, mais comme je le disais, comme ils n'ont jamais été chassés, donc ils n'ont vraiment pas peur, ils viennent nous voir, ils sont très curieux, et on peut très vite presque lier des liens d'amitié. C'est assez, assez chouette. Hein. Quand on est seul sur la banquise, ils viennent tout de suite nous voir. On voit un fil, des petits points au loin, et ils viennent droit dans notre direction. Ils tournent autour de nous, ils discutent. Donc c'est vrai qu'il se passe des choses, et on a eu la chance d'arriver en début de printemps et de partir au moment des premiers sauts de ces petits bébés empereurs. Donc le grand bain en quelque sorte, après 3-4 mois passés sur la banquise, et les parents sont partis définitivement, et ils sont face à l'océan Antarctique, et donc on a attendu plusieurs jours avant de voir ce premier bain pour après plusieurs années. Je crois qu'ils partent 3-4 ans en mer avant de revenir pouvoir nicher à leur tour sur la Manchotière.
C'est vrai que c'est très émouvant parce qu'on les voit hésiter, puis tout d'un coup il y en a un qui y va, puis hop, tous les autres suivent.
Ouais, absolument, ouais, ben, faut voir dans le documentaire. C'est vrai que c'est plus compliqué pour Laurent qui lui était dans l'eau, donc il attendait dans l'eau. Nous on attendait, on se relayait un peu, Luc, Jérôme et moi, et on a passé plusieurs jours et nuits à attendre ce fameux départ, parce que comme vous le dites, ils étaient assez un peu perturbés, indécis, et puis c'était tout nouveau pour eux.
Alors le but de cette expédition, 12 ans après la marche de l'empereur, le film documentaire de Luc Jacquet, c'est évidemment de montrer cette nature incroyable. Ça, vous le faites très bien, on le voit bien ici au musée des Confluences, on est complètement immergé dans cette expédition avec des images fantastiques, mais c'est aussi d'alerter sur sa fragilité. Alors vous n'êtes pas forcément des scientifiques spécialistes des conséquences des changements climatiques sur l'Antarctique, mais vous avez pu quand même être sensibilisé. On vous a beaucoup parlé de ces phénomènes-là. Vous qui avez vécu cette expérience, cette Antarctique avec le corps, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous percevez ces menaces ?
Je crois que le mieux, c'est de donner des exemples concrets dont on n'a pas forcément été les témoins. Il faut voir qu'on a été les témoins d'une année privilégiée, d'une année extraordinaire pour les manchots, à savoir que plus de 50% des manchots sont arrivés et sont partis à l'eau, des poussins je parle. C'était une année exceptionnelle. Il faut savoir que les deux années précédentes, je crois que c'est plus de 95% des poussins qui étaient morts. Et on vient d'apprendre que cette année, à nouveau, c'est pareil et qu'il y a déjà les trois quarts des poussins qui sont morts. Voilà.
Donc, comment ça s'explique, ça ?
Ben, ça s'explique par un phénomène assez paradoxal, c'est presque cynique ce qui se passe. C'est-à-dire que, ok, la glace recule, ça on le sait. En vérité, c'est plus subtil que ça. Les glaciers du continent, qui sont faits d'eau douce, évidemment, fondent beaucoup plus vite que pendant les siècles précédents, voire même les millénaires. Donc il y a une fonte incontestable des glaciers. Du coup, ces glaciers fondent et ça apporte du coup beaucoup plus d'eau douce en mer. L'eau de mer est moins salée, en quelque sorte, en périphérie, et donc elle gèle plus facilement. Du coup, il y a plus de glace de mer alors qu'il y a moins de glace sur le continent. Et quand il y a plus de glace en mer, eh bien, c'est d'autant plus de kilomètres à marcher pour les empereurs pour aller pêcher et nourrir les petits. Pendant les deux années qui ont précédé notre expédition, je crois qu'ils ont eu parfois 100 kilomètres à marcher avant d'atteindre le bord libre, la mer. Et donc, le temps de faire ces 100 kilomètres, aller pêcher, refaire 100 kilomètres de marche, les poussins ne sont pas nourris assez régulièrement et finissent par mourir de faim.
Oui, parce que c'est un phénomène un peu particulier. C'est-à-dire que les manchots vont pêcher les poissons, ils les ingurgitent, ils les gardent en eux et après, ils les restituent à leurs petits au retour.
Et nous, on a eu la chance d'être témoin d'une année où enfin la glace est partie, donc où les parents n'avaient plus que, par endroit, ils n'avaient plus que quelques centaines de mètres à marcher avant d'aller à la mer libre, pêcher, revenir. Donc l'année où nous y étions, les poussins ont été très bien nourris. Malheureusement, on vient d'apprendre que cette année, de nouveau, on est reparti dans un cycle comme ça où la plupart des poussins sont sous-nourris et meurent de faim. Donc ça, c'est une... D'après les ornithologues, c'est une conséquence directe du réchauffement qui a cette conséquence paradoxale qui fait que les glaciers fondent, mais du coup, ça fait plus de glace en mer.
Merci à tous les deux. Bravo pour ce travail magnifique. Et donc, on peut venir voir vos photos ici au musée des Confluences à Lyon, puis un documentaire aussi sur Arte, et puis bientôt le film de Luc Jacquet que nous recevrons dans un instant. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci à vous.
Écho d'ici.